Véroa Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du lundi 15 août 2016. Au sommaire ce soir...
Massacre dans l'est de la République démocratique du Congo. La société civile compte désormais 51 civils tués à Beni. Des rebelles ougandais sont pointés du doigt.
Présidentiel en Zambie, l'opposant Kainde Hichilema, battu d'un peu plus de 2 points par le président sortant Edgar Lungu, entend contester les résultats devant la justice.
Ici aux États-Unis, nouvelle nuit de violence à Milwaukee, dans le Wisconsin, après la mort d'un noir abattu par la police.
Et pour ce qui est de la campagne électorale américaine, le candidat républicain Donald Trump présente ce lundi son plan de lutte contre le terrorisme.
Ne ratez pas le journal des Jeux Olympiques.
Juste après, notre journal.
Les filles de Chibok, kidnappées depuis 2014, ont été vues dans une nouvelle vidéo mise en ligne hier. Boko Haram affirme que plusieurs jeunes filles sont mortes et exige un échange de prisonniers pour libérer les captives encore vivantes. Nani Talani, les détails.
La vidéo de 11 minutes montre un homme masqué avec des dizaines de jeunes femmes fatiguées portant le foulard, assises et debout derrière lui. En langue Haoussa, l'homme appelle le gouvernement nigérian à libérer les gens que les autorités détiennent à Abuja, Lagos et Maïdougouri. Mais la vidéo se termine par des images graphiques de cadavres sanglants. L'homme masqué dit qu'il s'agit des filles Chibok tuées par des frappes aériennes nigérianes. Pour les parents, cette vidéo prouve que certaines des filles sont encore en vie. Olatunde Olarewaju, l'un des leaders du groupe Bring Back Our Girls, considère la vidéo comme un chantage, mais aussi comme une occasion d'engager le dialogue en vue de leur libération. Aujourd'hui, l'armée nigériane a lancé un avis de recherche contre Ahmed Bolori, Aisha Wakil et le journaliste Ahmad Salkida pour recel d'informations concernant les lycéennes de Chibok. Selon le porte-parole de l'armée, le colonel Sani Ousmane, ces 3 personnes sont recherchées pour leurs relations et contacts présumés avec Boko Haram, étant donné leur lien avec les 2 dernières vidéos diffusées par ce groupe terroriste.
51 morts, tel est le nouveau bilan établi par la société civile suite au massacre survenu dans la nuit de samedi à dimanche à Beni, dans l'est de la RDC. Une attaque que l'armée congolaise attribue à des rebelles ougandais. Les précisions de Tatiana Mosso.
Notre équipe sur le terrain a comptabilisé 51 tués à la machette, a déclaré Teddy Kataliko, membre de la coordination de la société civile de Beni. Interrogé par l'AFP, le porte-parole du gouvernement Lambert Mende estime que la société civile avance un bilan qui n'est pas objectivement vérifiable. Dimanche, le gouvernement a proclamé un deuil national de 3 jours après cette tuerie qui a provoqué la colère de la population, 72 heures après le passage du président Joseph Kabila dans la région. Le chef de l'État congolais était lundi à Goma, capitale de la province du Nord Kivu, où se tenait une réunion de sécurité. Il devait ensuite se rendre à Beni. Lundi, le climat était morose dans la ville où la population a suivi le mot d'ordre de « ville morte » pendant 3 jours décrétés par la société civile. Le gouvernement congolais et la mission onusienne, la MONUSCO, tiennent les rebelles musulmans ougandais ADF pour responsables d'une série de massacres qui ont fait plus de 650 morts depuis octobre 2014 dans la ville et le territoire de Beni.
En Zambie, le président Edgar Lungu a été réélu dès le premier tour de l'élection présidentielle. Son rival va contester devant la justice les résultats. Idriss Fall.
D'après la commission électorale zambienne, le président sortant Edgar Lungu a été réélu au premier tour avec 50,3% des voix contre 47,6% pour son principal rival Hakainde Hichilema. Edgar Lungu, 59 ans, est donc confirmé dans ses fonctions 18 mois après son accession au pouvoir. Il a été élu en janvier 2015 après une élection anticipée pour désigner celui qui devait achever le mandat du président Michel Sata, mort de maladie en octobre 2014. À Lusaka, des concerts de klaxons et vuvuzela ont salué sa victoire et des centaines de personnes se sont rassemblées pour célébrer le succès de leur candidat. La police anti-émeute a été déployée sur les grandes artères après une campagne tendue qui a fait au moins 3 morts dans des heurts entre partisans des 2 camps. Le parti du candidat malheureux promet de porter l'affaire devant la justice pour contester des résultats qualifiés de frauduleux.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un attentat à la voiture piégée a fait au moins 6 morts, 4 policiers et 2 civils à Diyarbakir, dans le sud-est de la Turquie. Les autorités soupçonnent le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, qui serait également responsable de 2 attaques la semaine dernière dans la même région, faisant au moins 8 morts. La rébellion kurde en Turquie et les opérations du gouvernement ont fait plus de 40 000 morts en 32 ans.
Au Yémen, 6 personnes ont trouvé la mort et 20 autres ont été blessées dans des raids contre un hôpital. C'est selon des informations communiquées par la rébellion. L'organisation Médecins sans frontières, qui a une équipe travaillant dans cet hôpital public depuis 2015, a confirmé la nouvelle sur son compte Twitter.
La Jordanie, qui accueille des centaines de milliers de réfugiés syriens, a atteint ses limites. C'est la déclaration faite par le roi Abdallah II dans un entretien publié aujourd'hui dans le quotidien semi-officiel Al-Destour. Jacques Aristide.
La Jordanie est confrontée à une arrivée massive de réfugiés depuis le déclenchement du conflit syrien en 2011. D'après l'ONU, le pays accueille quelques 630 000 Syriens, mais Amman les évalue à plus d'1,3 million. S'alarmant des conséquences grandissantes de cet afflux, le roi Abdallah II appelle la communauté internationale à partager cette responsabilité, car dit-il, il s'agit bien d'une crise internationale. Et le souverain d'ajouter que même si son pays fait tout son possible pour aider les réfugiés, cela ne se fera aucunement aux dépens des Jordaniens et de leur sécurité. La situation humanitaire est particulièrement préoccupante à la frontière jordanienne, où des dizaines de milliers de Syriens sont bloqués depuis le 21 juin, date d'un attentat suicide qui a tué 7 militaires. Après cette attaque, Amman y a établi une zone militaire fermée et bloqué l'aide humanitaire. Le roi explique cette décision par la présence d'éléments extrémistes parmi les réfugiés.
En Louisiane, dans le sud-est des États-Unis, près de 1 700 militaires ont été mobilisés pour aider la population à faire face aux conséquences des pluies torrentielles qui se sont abattues ce week-end. On compte déjà 6 morts et plus de 20 000 habitants ont dû être évacués. Quelques 40 000 commerces et foyers sont privés d'électricité. Le président Barack Obama a déclaré l'état de catastrophe naturelle en Louisiane, ce qui va permettre de débloquer des fonds fédéraux d'urgence. Entre-temps, dans l'Ouest, en Californie, c'est un tout autre problème. Une sécheresse historique et des feux de forêt faisant des milliers de déplacés.
Exaspération de la population à Milwaukee, dans le nord des États-Unis, après la mort d'un suspect abattu par un policier. Après des heurts et affrontements entre manifestants et policiers, la situation reste instable, selon des sources policières. Des précisions avec Anastasie Tudiech.
Un homme de 18 ans a été grièvement blessé par balle durant de nouveaux heurts dans la nuit de dimanche à lundi à Milwaukee. Tout a commencé samedi après-midi avec la course-poursuite entre 2 suspects en voiture et 2 policiers. Les suspects ont ensuite tenté de s'enfuir à pied et l'un d'eux, Sylville Smith, 23 ans, a été abattu par l'un des policiers. Selon la police, Smith avait un casier judiciaire fourni et son arme avait été volée lors d'un cambriolage. C'est sa mort qui a provoqué la colère de manifestants qui ont caillassé des voitures de police et mis le feu à plusieurs commerces de la ville. 4 policiers ont été brièvement hospitalisés, selon le maire de la ville, Tom Barrett. Ce dernier a par ailleurs annoncé que 125 membres de la garde nationale étaient en route pour Milwaukee, tout en assurant ne vouloir les déployer que si la police le juge nécessaire. Plusieurs policiers ont été visés ou tués ces dernières semaines en marge de manifestations contre les violences policières à l'égard des Noirs américains.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
Le journal des JO sur VOA Afrique avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgan.
Les premiers résultats de ce lundi.
Nouvelle médaille pour l'Afrique, celle-là elle est en argent. La Kenyane Yvin Jepkemoy a terminé deuxième de la finale du 3000 mètres steeple. On peut même dire que le Kenya a officieusement gagné l'épreuve puisque c'est la Kenyane Ruth Jabet qui court sous les couleurs du Bahreïn qui a remporté la course. En 8 minutes 59 secondes, c'est la deuxième performance mondiale de tous les temps. A noter également que Marie-Josée Talou a réalisé le meilleur temps des séries du 200 mètres pour l'Ivoirienne en 22 secondes 31 centièmes. Ça passe aussi pour sa compatriote Muriel Aouré en 22 secondes 52 centièmes, qualifiée aussi pour le continent la Nigériane Blessing Okagbare. Handball, les Égyptiens battus 25-31 par l'Allemagne. La Tunisie affronte ce soir la Croatie. En boxe chez les Walter, défaite en demi-finale de Mohamed Rabhi, le Marocain. Mais il s'empare quand même d'une médaille de bronze.
Usain Bolt est bien l'homme le plus rapide de l'histoire et il l'a encore prouvé cette nuit à Rio.
L'éclair Usain Bolt a encore frappé hier sur la piste au Brésil. Comme à Pékin en 2008, puis Londres en 2012, le Jamaïcain remporte la finale du 100 mètres. Retour sur ce triomphe avec Jean-Roger Billon.
Souvent lent à se mettre en route en raison de sa grande taille, Usain Bolt a fait le deuxième plus mauvais départ de cette finale. Le Jamaïcain est alors obligé de passer à la vitesse supérieure pour revenir sur les talons de l'Américain Justin Gatlin. Dans les derniers 30 mètres, Gatlin semble plafonner et Bolt en profite pour revenir à sa hauteur et dans le même mouvement, doubler son principal rival. Le Jamaïcain franchit la ligne suisse à lancer et lève aussitôt l'index de la main droite pour célébrer sa victoire. Bolt stoppe le chronomètre à 9 secondes 81 centièmes, loin de son record du monde 9 secondes 58 centièmes, mais suffisant pour entrer à jamais dans l'histoire des Jeux olympiques. Le Jamaïcain Usain Bolt a été sacré champion olympique du 100 mètres et devient le premier athlète de l'histoire à remporter trois fois l'épreuve reine du sprint dimanche aux Jeux de Rio. Bolt, déjà sacré sur la ligne droite en 2008 à Pékin et 2012 à Londres, a devancé l'Américain Justin Gatlin, médaille d'argent, et le Canadien André de Grasse, médaille de bronze.
Autre performance incroyable hier sur 400 mètres cette fois, et un Sud-Africain qui décroche la médaille d'or et bat le record du monde.
Van Niekerk, 24 ans, déjà champion du monde 2015, a devancé les deux derniers champions olympiques, le Grenadin Kirani James en 43-76, sacré en 2012, et l'Américain LaShawn Merritt, sacré en 2008 en 43-85. Wade Van Niekerk a battu le record du monde de l'intouchable Michael Johnson, un record vieux de 17 ans. Il a remporté la finale en 43 secondes et 3 centièmes lors de ce 400 mètres.
Les autres résultats de la nuit dernière, ce dimanche, pour les Africains à Rio.
L'Éthiopienne Genzebe Dibaba, championne du monde en titre et détentrice du record du monde, s'est qualifiée pour la finale du 1500 mètres en dominant la seconde demi-finale en 4 minutes 3 secondes et 7 centièmes. La finale est programmée dans la nuit de mardi à mercredi. En handball, battue par les Espagnols 22-26, les Angolaises affronteront demain les Russes en quart de finale. Et puis nouvelle défaite du Sénégal en basket féminin 88-95 face à la Serbie. Astou Traoré a réussi un gros match pour les championnes d'Afrique avec 30 points. Déjà éliminées du tournoi olympique, les volleyeuses camerounaises ont une nouvelle fois été complètement dépassées hier. Lors de leur dernier match, elles ont essuyé 5 défaites en 5 rencontres. Cette fois-ci, c'était contre la Corée du Sud.
Et enfin, retour sur le beau parcours des Nigérians qui se poursuit dans le tournoi de football.
Belle victoire 2-0 des Super Eagles face aux Danois ce week-end. Le Nigeria s'est qualifié avec brio pour les demi-finales où il affrontera l'Allemagne. Ce sera après-demain. Les détails avec Thierry Kambundi à Rio pour notre radio partenaire Top Congo.
Amené par le capitaine John Obi Mikel qui a montré l'exemple en ouvrant le score dès la 15e minute, les Nigérians ont ensuite corsé l'addition à la 59e par Aminu Umar, une nouvelle fois sur un service de John Obi Mikel, buteur et passeur décisif pour écarter le Danemark et se qualifier pour les demi-finales. Ce mercredi 17 août à Sao Paulo, l'équipe du Nigeria, entraînée par Samson Siasia, affronte l'Allemagne, tombeur du Portugal en quart et meilleure attaque de ses JO avec 19 buts en 4 matchs. Vainqueur du tournoi et médaillé d'or en 1996, le Nigeria peut encore, 20 ans après la génération Nwankwo Kanu, rêver de la plus belle des récompenses à ses JO. De Rio, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
On rappelle, Morgan, qu'au classement des médailles, les États-Unis sont premiers devant la Grande-Bretagne et la Chine.
Merci Nicolas.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Nathalie Barche.
Le Nigeria est soudainement devenu un pays pauvre, a déclaré samedi le président Muhammadu Buhari, déplorant le recul de la première économie africaine qui a perdu sa place au bénéfice de l'Afrique du Sud. Sa capacité de production d'électricité s'est effondrée en quelques années de 6 000 à 2 500 mégawatts. L'industriel Aliko Dangote souhaite créer une raffinerie de 14 milliards de dollars pour réduire le déficit énergétique. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi s'est dit prêt samedi à mettre en œuvre des réformes économiques draconiennes, deux jours après un accord préliminaire de 12 milliards de dollars avec le FMI. Le gouvernement a déjà réduit les subventions pour l'électricité, entraînant une montée des prix. La Banque centrale a été contrainte de dévaluer la livre de près de 15% face au dollar en mars. Le pôle société civile du comité de pilotage de la COP 22 a débuté ce week-end une série de rencontres en Afrique pour mobiliser les acteurs non gouvernementaux à la conférence sur le climat à Marrakech en novembre. La première phase de cette mission concerne le Cameroun, la RDC et le Rwanda, entre autres pays.
Vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, Morgane Guériec et Chérubin Gabi Dorsil en votre compagnie. Place au dossier du jour, première escale, Niamey.
Revirement politique au Niger. Le MNSD, le Mouvement National pour la Société de Développement, la troisième force de l'opposition, a décidé ce week-end de se rallier au camp présidentiel. Ce parti de l'ancien président Mamadou Tandja faisait partie de la COPA 2016, la coalition de l'opposition qui conteste jusque-là la réélection du président Issoufou lors de la présidentielle de mars dernier. Cette décision du MNSD a été prise samedi à l'issue d'un vote des membres du bureau politique du parti, comme nous l'explique Amadou Idé, secrétaire adjoint de la communication du MSD Nassara.
Il y avait 144 oui contre 4 non. Alors, majoritairement, vous voyez la tendance qui est dégagée. Le MNSD Nassara est favorable pour attraper la main tendue du président de la République.
En décidant de participer au gouvernement, du coup, vous laissez tomber les positions de la COPA, la coalition de l'opposition qui avait conditionné toute participation à un gouvernement d'union nationale, à un dialogue et à une transition.
Non, au début, vous savez très bien l'objectif de la COPA, c'était une commission créée pour l'alternance. L'alternance n'ayant pas eu lieu, nous avons le libre choix, n'est-ce pas, de nous prononcer, nous, MNSD, en toute souveraineté. Donc, nous pensons que les travaux de la COPA étaient terminés après les élections. Donc, nous ne sommes pas obligés de continuer à vivre sous les selles de cette COPA-là.
Mais la COPA ne reconnaissait pas la réélection de Mahamadou Issoufou, disant que ce n'était pas des élections transparentes.
Mais justement, c'est après tout ça, après cette décision, que les députés ont rejoint l'Assemblée nationale. Et les députés, c'est tous les députés de la COPA. Mais finalement, il y a l'intérêt national qu'il faut viser. Aujourd'hui, le Niger est dernier. Nous n'allons pas continuer à être dernier. Et on ne crée pas un parti, s'il vous plaît, pour rester dans une opposition. On crée un parti pour gérer le pouvoir.
Oui, et si on reste donc dans cette logique, est-ce que vous lanceriez un appel à vos camarades de la COPA de peut-être se réunir pour décider comme vous l'avez fait?
Bon, vous savez très bien que le président de la République a tendu sa main à tous les fils, c'est-à-dire à tous les partis politiques. Mais les autres partis peuvent répondre, pourquoi pas? Il y a deux choses qui nous ont conduits à ce choix. D'abord, il y a l'intérêt de notre parti. Il y a aussi de l'autre côté l'intérêt général de la nation. C'est vrai, c'est un partage de pouvoir qu'on va faire. Moi, je ne vois aucun problème si les fils du pays s'entendent pour construire leur pays.
Voilà, c'était Amadou Idé, le secrétaire adjoint à la communication du MNSD Nassara. Il était joint à Niamey par Bagassi Koura.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Le Congo-Brazzaville célèbre le 56e anniversaire de son indépendance. L'occasion pour le gouvernement d'organiser les festivités à Madengo dans le sud, où de nombreuses infrastructures ont été construites pour l'occasion. De nouvelles routes bitumées améliorent la vie des populations dans la Bouenza. Le reportage de notre correspondant Nguelan Gousseau.
Les populations de la Bouenza ont dans leur majorité salué ce désenclavement grâce aux nouvelles routes bitumées, des infrastructures construites à l'occasion de la célébration tournante de la fête de l'indépendance et qui assure aujourd'hui la fluidité des transports.
Le transport ici est un peu difficile parce que mauvais état de route et or maintenant c'est rapide et on peut faire aller-retour à Brazzaville. 350 km aller-retour.
C'est appréciable, hein, parce que là je viens de Caï et avec ma moto, j'ai fait que 28 minutes, pratiquement 30 minutes, alors que hier c'était pas comme ça. Hier, il faut purger pratiquement au moins 2h, 3h de Nkaya Madingou.
Pour le préfet de la Bouenza, Célestin Tombekende, ces routes ont modernisé les conditions de vie des populations qui vivent dans son département. La Bouenza est un département à vocation agricole. Le manioc, le foufou, l'igname, la banane ou l'arachide poussent même sur du roc, affirment les agriculteurs avec ironie. Avec la route, la commercialisation de ces produits agricoles est donc assurée.
Mais justement, la route est faite comme ça, là. Hein? Ça profite aux parents cultivateurs. Hier, il y a des marchandises. C'est vrai que les parents cultivaient, mais il n'y avait pas moyen de faire sortir les marchandises dans des grandes villes.
Ces travaux ont coûté 90 milliards de francs CFA sur 500 milliards prévus cette année. Ce n'est qu'un processus, a rassuré le ministre en charge des grands travaux, Jean-Jacques Bouya. L'évêque catholique de la Bouenza, Monseigneur Daniel Mizonzo, qui sillonne régulièrement le département, rappelle tout de même que ces efforts doivent se poursuivre.
Effectivement, il y a encore beaucoup de choses à faire, particulièrement les ponts. Je pense, j'avais fait le tour à Bokosongo, mais à Bokosongo, même les tournées, on ne peut pas le faire, même à Jakarta, parce que il y a des ponts qui sont cassés, donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais j'espère que les responsables des municipalités et des districts pensent, c'est tous ceux qui se positionnent pour les législatives et les locales. Ils doivent penser à des routes.
Madingou dans la Bouenza, Nguelan Gousseau, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Fin hier à Montréal, au Canada, du Forum social mondial organisé pour la première fois dans un pays développé. Mais la majorité des invités, surtout des Africains, n'ont pas eu leur visa pour y participer. Parmi eux, l'ancienne ministre malienne et activiste altermondialiste Aminata Traoré. Alors que peut-on retirer de ce forum qui a duré 3 jours? Éric Maniarakiza a joint à Montréal l'éditeur et rédacteur en chef du magazine transatlantique Chika Kanyori.
La conclusion la plus intéressante, c'est d'abord l'implication de sociétés civiles dans les changements sociaux et politiques même, et aussi la coordination, notamment au niveau des syndicats à travers le monde entier, pour essayer de voir comment ensemble ils peuvent changer la situation des travailleurs. Savoir comment avoir des renseignements réels sur des multinationales qui travaillent dans plusieurs pays, savoir comment négocier ensemble, et c'est dans ce cadre-là qu'ils ont demandé de créer un portail Internet qui puisse mettre toutes ces informations ensemble pour réunifier plusieurs syndicats dans plusieurs pays.
Mais ce n'est pas la première fois qu'on parle de l'implication des sociétés civiles dans la gouvernance. Qu'est-ce qui est nouveau aujourd'hui?
C'est qu'au moins ça donne des résultats. Les sociétés civiles se sont souvent impliquées, mais comme on l'a dit par exemple avant une affaire comme le Brésil qui a donné Lula, personne n'avait prévu ça. Comme aujourd'hui en Afrique, on l'a dit, ce qui est arrivé au Burkina Faso et autres. Ça n'a pas toujours été ça. Même ici, puisqu'on a osé aborder certaines questions qui très souvent n'étaient pas traitées, comme par exemple la situation des Amérindiens ici. Au Canada, vous avez que même le mouvement Black Lives Matter des États-Unis était représenté ici. Et ce qui a fait, par exemple, qu'on a posé même la question du racisme même au Québec, au Canada encore, que très souvent on essaie, pendant longtemps les gouvernements font semblant comme si ça n'existait pas, quoi.
Pourtant, plusieurs acteurs de la société civile ou même des syndicats n'ont pas eu la chance de participer à ce forum parce qu'ils n'ont pas eu de visa.
Ça a été le plus grand problème, d'ailleurs, dès le début du forum. Et ça n'a pas bien servi le Canada. Il y a, par exemple, Mme Aminata Traoré, l'ancienne ministre malienne de la Culture, qui est une militante altermondiste très, très connue. Ce qu'en fin de compte, ça a donné une visibilité médiatique au forum qui n'aurait probablement pas eu dans cet incident.
Voilà, c'était Chika Kanyuri à Montréal.
Présidentielle américaine 2016, le candidat républicain Donald Trump présente ce lundi dans l'État de l'Ohio sa politique étrangère et son plan pour combattre le groupe État islamique. Il tentera aussi de recentrer le débat électoral après les multiples controverses qui ne cessent de brouiller son message, Timothée Donangmaï.
Le plan de Trump contre le groupe État islamique est particulièrement attendu après sa sortie de la semaine dernière accusant le président Obama et la candidate démocrate Hillary Clinton d'être les fondateurs de ce groupe terroriste, c'est-à-dire d'en avoir favorisé l'émergence par une politique inadéquate, des propos qui ont valu de vives critiques à Trump. Selon ses proches, le candidat républicain appellera à une politique étrangère basée sur le réalisme et visant la destruction du groupe État islamique et d'autres formations terroristes. Cette approche veut que les États-Unis s'alignent avec tout pays engagé à éliminer le terrorisme islamiste radical et qu'ils mettent de côté toute querelle passée avec un tel pays. On s'attend aussi à ce que Donald Trump présente un projet de réforme de l'immigration axé notamment sur un triage plus rigoureux des candidats à l'immigration aux États-Unis.
Mais on se souvient que le candidat républicain avait précédemment déclaré qu'il fallait temporairement interdire l'entrée aux États-Unis des musulmans et ne laisser entrer que ceux dont on est sûr qu'ils ne viendront pas mener des attaques en territoire américain.
Dans le plan qu'il va présenter ce lundi dans l'Ohio, le candidat républicain évoquera la possibilité de suspendre temporairement l'octroi des visas américains à des régions géographiques ayant une histoire d'exportation du terrorisme et où il n'existe pas de ressources pour un minutieux examen des casiers judiciaires des demandeurs de visa. Ultime étape de ce processus, Trump va appeler à soumettre à un examen idéologique tous les migrants désireux de s'établir ici aux États-Unis. Les questions porteraient notamment sur leur point de vue en matière de religion, d'égalité entre les genres, des droits des homosexuels, de la tolérance et du pluralisme culturel ici aux États-Unis. Donald Trump consacrera une bonne partie de son discours dans l'Ohio à dénoncer les initiatives du président Obama et de son ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton. Par ailleurs, il déclarera explicitement que les États-Unis sont en guerre avec l'islam radical, une position qui, de l'avis du président Obama, de la candidate démocrate Hillary Clinton et d'autres hauts responsables américains, fait le jeu des militants islamistes.
Merci Timothée Donangmaï.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque lundi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Et c'est la fin de cette édition. Michel Joseph a dirigé la mise en onde avec l'assistance de Mr. Remkes à la console. Présentation Morgane Guériec et chérubin Gaby Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute de VO Afrique. Merci à nos près d'1 700 000 fans sur Facebook. Le nombre continue d'augmenter. On maintient la conversation. Enfin, n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bangui sur 101.7 FM. Sabari FM, Bamako. Golf FM, Cotonou. Milo FM 99.5, Cancan Niger, et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.